Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?». Aujourd'hui, notre émission en partenariat avec la revue politique et parlementaire sera consacrée à la guerre de tous contre tous, un numéro consacré aux violences dans notre société avec de nombreux contributrices et contributeurs. Et on a le plaisir de recevoir dans cette première partie de l'émission Raphaël Rémy-Leleu. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseillère de Paris Europe Écologie Les Verts et vous avez également été porte-parole de l'association Oser le Féminisme.
Et donc, absolument.
Et donc, c'est tout naturellement que vous avez accepté de rédiger un article pour la revue en insistant sur les violences masculines, les violences faites aux femmes. Pourquoi finalement, vous avez choisi cet angle-là par rapport à un numéro qui traite, on en parlera plus tard, de toutes les violences finalement?
Alors, il faut dire que l'article, en tout cas le sujet de l'article, m'a été proposé par Pierre-Emmanuel Guigaud. Mais pour moi, c'était important aussi de parler de violence contre les femmes et plus encore de violence masculine dans un numéro qui traitait de la guerre de tous contre tous, puisqu'il ne faut pas oublier que la guerre de tous se fait aussi beaucoup contre toutes, puisque les principales aujourd'hui victimes de violence, peu importe la manière dont on considère et à quelle échelle on évalue la violence, les principales victimes en sont les femmes et les enfants.
Et vous donnez un chiffre assez évocateur, on va dire, c'est que 84% des personnes mises en cause pour des homicides sont des hommes.
Absolument, ça ce sont les chiffres en France, ce sont les chiffres qui prennent en compte, y compris ce qu'on appelle et ce qu'on a tenu à appeler les féminicides, mais de manière plus générale sur la criminalité en France, y compris donc des meurtres d'hommes entre eux. Ce sont très très généralement des hommes qui en sont mis en cause et coupables. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans beaucoup de cas où des femmes sont mises en cause, elles agissent une grande partie du temps, soit en légitime défense, soit dans une situation notamment de violence conjugale. Donc il y a une vraie asymétrie dans l'exercice de la violence entre personnes et entre sexes.
Vous pointez aussi du doigt la difficulté de faire reconnaître, y compris dans le vocabulaire, la spécificité des violences faites aux femmes, et notamment le combat que vous avez mené pour que le mot féminicide soit installé dans le débat public, alors même que dans d'autres pays, ces évolutions-là ont été plus rapides et plus fortes.
Tout à fait, il y a des pays qui ont connu une évolution plus rapide, je pense notamment au Canada, je pense notamment au Mexique, avec des évolutions un peu différentes, y compris selon les types de criminalités auxquelles sont confrontées et de violences auxquelles sont confrontées les femmes. Mais pour nous, c'était important cette reconnaissance du mot féminicide, également parce qu'il fallait absolument sortir du danger que représentaient les autres expressions employées jusqu'à présent. Et je parle bien de danger, parce que parler de crimes passionnels, de crimes d'amour, ou d'autres expressions qui sont ressorties notamment dans la presse, pour parler du meurtre d'une femme par un homme, ça pouvait poser de grandes difficultés dans la conception, dans la compréhension et dans la lutte contre ces violences masculines.
Alors, on a aussi souligné plusieurs fois dans l'émission les limites de l'action ou des actions menées. Malgré le Grenelle des violences conjugales il y a 2 ans, les pouvoirs publics en général, mais les gouvernements français en particulier, semblent avoir du mal à joindre la force des discours aux actes et aux décisions un peu fortes. Vous expliquez ça comment, cette distance entre les mots et la réalité des moyens mis en œuvre pour combattre les violences faites aux femmes et les féminicides?
Bien entendu, et d'ailleurs, à ce sujet-là, moi je ne dirais même pas malgré le Grenelle. Le Grenelle, personne n'en est dupe, et personne d'ailleurs dans le milieu féministe n'en était dupe. Nous savons ce qu'il doit être fait, nous connaissons des politiques publiques efficaces qui ont été mises en œuvre, notamment en Espagne. Nous avons une expertise, y compris française, sur la base d'expérimentation, sur la base d'études, sur la base de rapports. Et alors qu'on demandait des moyens et la mise en œuvre de ces politiques publiques, on nous a répondu un Grenelle. Et l'État français actuellement n'a pas de difficulté à mettre en œuvre des actions décisives pour lutter contre les violences masculines. Il refuse de le faire. C'est un véritable refus. Et à un moment, il va falloir que les responsables politiques soient comptables de ce refus, de cette absence de responsabilité, des condamnations qui commencent à pleuvoir contre l'État français pour les défaillances que connaissent les femmes qui sont victimes de violences ou dans certains cas de féminicides. On est confronté à des défaillances de la chaîne Nous sommes confrontés à des défaillances du côté à la fois de la justice.
Oui, de la chaîne pénale et de la chaîne judiciaire, du fonctionnement entre la police et la justice.
Absolument. Et le problème, c'est que ça conduit à des femmes qui sont tuées et qui ne sont pas sauvées alors qu'on pourrait les sauver. Donc tant qu'on n'aura pas l'adaptation notamment des moyens, et ce qui est réclamé c'est 1 milliard d'euros pour lutter contre les violences sexistes et spécifiquement contre les féminicides, tant qu'on n'aura pas mis ces moyens sur la table, on continuera d'avoir un terrible décompte des femmes tuées par leur ex ou par leur conjoint chaque année et on n'aura pas de baisse de chiffres.
Alors, on a reçu plusieurs fois ici Luc Frémiot. Et aussi récemment Anne Bouillon, qui est une avocate spécialisée dans la lutte contre ces violences. Et ils ont aussi un discours extrêmement sévère, mais tout en expliquant que c'est pas seulement une question de moyens, c'est aussi une question de volonté des acteurs, que ce soit au niveau de la police, avec parfois des conditions d'accueil. Il y a eu encore récemment à Montpellier des critiques très fortes contre les conditions d'accueil faites aux femmes victimes de violences, ou au niveau des magistrats. Et Luc Frémiot était bien placé pour en parler, en disant que parfois, bien les parquets n'étaient pas suffisamment volontaristes ou volontaires, ou peut-être n'avaient-ils pas aussi assez de moyens pour systématiquement poursuivre les auteurs de ces violences.
Bien sûr, il y a une question de volonté, mais ça va avec la question des moyens. On ne peut pas exiger des fonctionnaires, des agents et des agentes publiques qui doivent mettre en œuvre les politiques de ne pas être assez volontaristes, alors que les politiques eux-mêmes sont incapables de donner les impulsions et les moyens nécessaires. Luc Frémiot a fait des choses formidables avec les moyens dont il disposait, et c'est quand même la preuve que lorsqu'on est formé à ces questions, lorsqu'on est sensibilisé, lorsqu'on est conscient ou consciente, on peut concrètement améliorer les choses. Mais là, on a besoin d'un changement d'échelle.
Alors, dans les mesures réclamées, qu'est-ce que vous considérez être la priorité des priorités? Est-ce que c'est la mise en place d'un parquet dédié comme en Espagne? Est-ce que c'est la multiplication des mesures d'éloignement? On est très 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 loin du nombre de décisions prises en Espagne. Les magistrats convoquent rarement ces mesures d'éloignement, ou la mise en œuvre de ce qu'on appelle aujourd'hui les bracelets anti-rapprochement. J'ai fait ma petite enquête. Il y en a 1 millier qui pourraient être mis en circulation. Pour l'instant, on est à 61 décisions de justice.
Je pense que vous décrivez bien le panel, en tout cas d'une partie des possibles. Et en fait, la mise en place de ces parquets et de ces juridictions dédiées, c'est bien la première étape. Parce que si on a un parquet et une juridiction spécialisée, les procédures iront plus vite, donc rien que ça, c'est une sécurité, puisqu'en réalité, il y a beaucoup de féminicides qui arrivent, qui sont perpétrés au moment de l'attente entre deux procédures ou à un moment de récidive. Ça permettra également d'avoir des ordonnances de protection qui arriveront dans des délais, en fait, raisonnables face à l'urgence de la situation. Attendre 3 mois pour avoir une ordonnance de protection quand on est en danger de mort, c'est ridicule. Et ça permettra aussi d'avoir une mise en place effective, que ce soit des bracelets d'éloignement ou des téléphones grand danger.
Alors, il y a aussi eu quelques avancées, hein, la mise en place d'un numéro unique 3919. On le rappelle à chaque fois dans toutes les émissions. Et puis, effectivement, des annonces ou des effets d'annonce, puisque je le rappelle, la lutte contre les violences faites aux femmes était considérée comme une grande cause nationale par le gouvernement. Malgré ça, effectivement, peut-être aussi que l'augmentation du budget de la justice passe aussi, ça devient inéluctable pour mettre en œuvre les mesures qui vont quand même, qui représentent aussi un coût. Il faut des moyens. Vous considérez aujourd'hui que la justice doit être renforcée dans ses moyens?
Oui, la justice doit être renforcée dans ses moyens. Par contre, j'aimerais revenir sur un certain nombre de points. Je ne vois pas quelles sont les avancées de ce gouvernement Macron en matière de protection des femmes. Le Grenelle était une vaste fumisterie. Le 39, en réalité, est une structure gérée par la Fondation nationale Solidarité Femmes depuis 30 ans, si je ne m'abuse, qu'au contraire, le gouvernement a failli mettre en danger en ouvrant un appel, un marché public presque, pour essayer de démanteler le fonctionnement actuel du 39-19. Et face à la mobilisation, ils sont revenus en arrière. Donc oui, des moyens à la justice et une véritable prise en compte des revendications féministes, ça n'est pas si compliqué à faire. C'est ça qui est frustrant, c'est ça qui est énervant. On fait des grands discours sur l'égalité femmes-hommes et sur la grande cause du quinquennat, mais il n'y a pas de mise en place de solutions qui sont pourtant connues, partagées et qui pourraient sauver des femmes.
Alors peut-être aussi une question pour élargir sur les autres thèmes de la revue. Il est question de toutes les formes de violence, il y a aussi les violences faites aux enfants. Il y a évidemment la question aussi de la réponse pénale à la petite ou grande délinquance qui peut pourrir dans certains territoires la vie des habitants. D'une manière générale, vous considérez que on parle beaucoup de la notion d'ensauvagement qui a été repris par le ministre de l'Intérieur. Est-ce que on est dans une société plus violente aujourd'hui, ou est-ce que finalement il y a une certaine permanence de la violence, mais que simplement du fait des médias sociaux, on parle beaucoup plus des faits divers, et donc il faudrait surtout améliorer la réponse pénale, ce qui semble à peu près faire consensus aujourd'hui dans tous les discours.
Alors, en fait, je trouve très grave de reprendre sans sourciller la notion d'ensauvagement, qui est une notion d'extrême droite, qui a été théorisée par l'extrême droite, qui sert un projet politique d'extrême droite, et particulièrement un projet politique raciste, alors que lorsqu'on s'intéresse véritablement aux questions de sécurité et qu'on examine un peu les faits, les chiffres et les études, le niveau de violence dans la société, en tout cas le niveau de crime et de délit, n'augmente pas en moyenne. Il y a certains types de crimes et délits qui baissent, d'autres qui augmentent. Bon. Le fait qu'il y ait un ressenti de la violence, et y compris peut-être une culture de la violence en augmentation, là-dessus, je pense qu'on peut, s'accorder, et il faudrait reposer sur la table énormément de choses, qu'il s'agisse d'une forme de gamification, mais aussi d'érotisation de la violence, une forme de mise en valeur, y compris par le bruit médiatique qu'on peut retrouver et dans lequel la spirale médiatique dans laquelle on peut se retrouver autour d'un acte de violence. Tout ça interroge profondément notre modèle vis-à-vis de la sécurité d'une part, mais aussi vis-à-vis de la violence. Donc la réponse pénale, bien entendu, mais la réponse pénale, c'est aussi de la prévention, c'est aussi un changement par exemple, des conditions de détention qui sont largement pointées du doigt en France comme étant indignes. Ça ne peut pas être simplement s'engouffrer dans des brèches qui ont été proposées par l'extrême droite et ne pas voir les pièges qui nous sont tendus.
Alors, évidemment, il y a dans le numéro de la revue le panel des réponses qui vont pour les uns jusqu'à pourfendre, je dirais, la cancel culture, le terme aujourd'hui à la mode, et puis les gens qui considèrent effectivement qu'il y a une constante dans les représentations de la violence et que c'est plutôt l'exacerbation médiatique qui aujourd'hui amène quand même, mais vous devez le sentir, à un déplacement du curseur vers les thèses les plus extrêmes.
Le déplacement du curseur, il n'est pas de mon fait.
Non, mais c'est une réalité qu'on mesure en ce moment dans les enquêtes d'opinion.
Et c'est une problématique, en tout cas une problématique du point de vue de mes idées, de mes convictions et de ce que je pense sont les solutions pour apaiser la société, et j'essaye de les combattre, puisque les grands tenants d'une grande inquiétude autour de la cancel culture ou du wokisme ou de je ne sais pas quel mot sera inventé la semaine prochaine pour faire peur à ce sujet, par exemple, ne parlent pas de violences sexistes et sexuelles et n'osent pas dire ce que je dis, à savoir que les hommes tuent. Ça, c'est quelque chose qu'ils ne remettent pas en cause. Donc, il va falloir s'interroger un peu plus finement sur qui sont réellement les tenants de la violence.
Merci beaucoup, Raphaël Rémy-Deleu, pour avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes conseillère de Paris Europe Écologie Les Verts et que vous avez été contributrice dans le dernier numéro de la revue politique et parlementaire, La guerre de tous contre tous, consacrée aux violences dans la société et à la manière dont on les analyse et les réponses qu'il faut apporter. On va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Et on vous remercie encore, Raphaël, d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?», une émission que nous consacrons cette semaine au numéro de la revue politique et parlementaire « La guerre de tous contre tous ?», point d'interrogation, donc un numéro consacré à la violence dans la société et différents contributeurs avec différents angles. Pour en parler dans la deuxième partie de l'émission, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Emmanuel Guigot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire politique et de la communication et coordinateur de ce numéro de la revue politique et parlementaire, avec donc des contributions du rédacteur en chef Arnaud Benedetti. Il y a également Bernard Cazeneuve, beaucoup de d'universitaires, Arnaud Mercier, des politiques, David Lisnard, Laurent Mucchielli. On a dans la première partie de l'émission également eu Raphaël Rémy-Deleu. Qu'est-ce qui vous a frappé dans les contributions que vous avez lues et coordonnées dans le cadre de la revue ?
Alors, c'était vraiment l'idée d'avoir des points de vue qui soient très différents et d'avoir une vision un peu complète de cette question de la violence qui est souvent traitée avec beaucoup d'émotions dans les médias, hein, souvent liée à des faits divers. Et l'idée, c'est de décortiquer ce phénomène en montrant que sa réalité était beaucoup plus complexe, beaucoup plus protéiforme, et avec des points de vue qui sont extrêmement différents, hein, comme vous l'avez dit rapidement, des points de vue politiques qui n'hésitent pas à prendre à bras le corps cette question, voire même clairement à l'instrumentaliser à des fins d'un discours politique, c'est ce qu'on voit régulièrement dans les médias. Nous, l'idée, c'est de prendre de la distance par rapport à ça, voir déjà s'il y a une réalité d'un retour de la violence, hein, parce que c'est notre question initiale. Et puis, et s'il n'y a pas retour ou s'il y a retour, essayer d'en voir quelles sont les formes contemporaines. Et le tout sur le temps long, parce que vous avez cité pas mal de contributeurs qui sont des sociologues, des politologues, mais il y a aussi pas mal d'historiens. On a notamment Jean-Clément Martin qui a fait une contribution sur la Révolution française et notamment sur la terreur. Hein. Qu'est-ce que c'était que la violence à l'époque de la terreur ? Est-ce qu'il y a des critères qui se retrouvent encore aujourd'hui ? On a également une contribution d'Emmanuel Furex, qui a travaillé sur la violence politique au XIXe siècle, notamment à travers l'iconoclase, hein, la destruction des statues. Là encore, quelque chose de très contemporain, en fait, mais dont il était intéressant de voir ça sur le long terme.
Alors, on vit une époque, alors certes, où on n'est sans doute pas dans des climats tels que ceux de la Révolution française avec la terreur, ou même des périodes... on pense à la fin du 19e siècle, début du 20e, avec des violences notamment politiques, des gens qui se tapaient dessus dans la rue, des attentats aussi anarchistes, etc. Néanmoins, on a quand même le sentiment depuis quelques années d'une plus grande visibilité des faits divers, des faits de violence sur les personnes en particulier, et puis il y a aussi évidemment le contexte des attentats. Comment est-ce qu'on traite avec un petit peu de recul de sujets aussi brûlants et d'actualité?
Alors, l'idée, c'est justement de distinguer différentes formes de violence. Il faut bien distinguer la violence au sein de la société, avec un processus de long terme, hein, qui était celui décrit par Norbert Elias, de pacification de cette société. Il y a la question après de la violence politique, et il est clair que là aussi, sur le long terme, on a plutôt un abaissement de cette violence politique. vous avez cité les attentats anarchistes de la fin du 19e siècle, on est quand même très loin de cette période-là. Alors après, si on regarde un petit peu plus sur une échelle un peu plus courte, effectivement, on peut avoir le sentiment que il y aurait des formes de brutalisation de la société, alors tant dans la violence sociale et sociétale que dans la violence politique, avec le retour d'un discours plus haineux, plus agressif, de la diffamation, d'un discours beaucoup plus violent finalement dans les termes utilisés. Donc on essaye aussi de décortiquer finalement cette évolution-là et d'essayer d'en comprendre les raisons. Et effectivement, vous avez cité les attentats, c'était une des théories qu'on avait, d'un des présupposés qu'on avait lors de ce, l'hypothèse plutôt, lors de ce du commencement de ce numéro, c'était essayer de montrer qu'effectivement, les attentats ont peut-être influencé la violence dans la société et la violence politique aussi. C'est ce qui semble effectivement ressortir de plusieurs des analyses qui sont présentées dans le numéro.
Alors, est-ce que finalement, à votre manière, vous avez mis en scène dans ce numéro de la revue politique parlementaire ces guerres culturelles bien connues aux États-Unis, où on a finalement non pas des gens qui débattent, mais des points de vue très difficiles à réconcilier. Je prends un exemple entre la contribution d'une universitaire, Madame Brunel, et puis la contribution de David Lisnard. On voit qu'il y a quand même des approches extrêmement divergentes, pour ne pas dire conflictuelles.
Tout à fait. Et alors l'idée aussi du numéro, c'est d'arriver justement à réconcilier ces... Alors peut-être pas réconcilier, mais en tout cas faire dialoguer ces différentes approches et surtout à les présenter. Parce que le problème qu'on a souvent dans les médias de masse et généralistes, c'est qu'au final, on n'a qu'une voix ou que la voix opposée, suivant le média que l'on regarde. Et donc ça, c'est un peu un problème. Finalement, ce dialogue-là, on l'a plus. Ou alors, quand on l'a, il est extrémisé et violent, parce que c'est le principe des médias, hein, c'est d'essayer de faire le buzz. Nous, on est loin de cette donnée-là, et notre idée, c'était plutôt d'arriver à présenter ces différents points de vue de manière apaisée, d'essayer de les faire dialoguer, ou en tout cas de créer les bases d'un début de dialogue. Donc effectivement, il y a des points de vue assez différents, celui d'Emmanuel Brunel, hein, qui est sur une réflexion en partant de ce qu'on appelle l'intersectionnalité, hein, essayer de voir... du point de vue des personnes discriminées, que ce soit en l'occurrence ici des femmes, des personnes racisées, que ce soit le concept qu'elle va utiliser, et c'est de voir finalement qu'est-ce qu'il ressort de ces différentes formes de discrimination. Alors, plutôt que le point de vue de David Lisnard, qui est un point de vue politique, hein, parce que c'est aussi ça le but de la revue, c'est d'avoir des points de vue de chercheurs et puis des points de vue de politiques, il y aurait la contribution de Nathalie Heinisch, qui elle, a clairement pris parti dans le débat public en critiquant ce type d'analyse, hein, qu'on appelle désormais woke, et qui en fait, en tant que sociologue, une critique assez acerbe. Donc là, on a des points de vue, effectivement, qui sont extrêmement différents, et qu'il est bon d'avoir, de manière sereine, présenté à travers l'écrit.
Alors, effectivement, on voit bien que depuis quelques années, ça a toujours été un petit peu le cas, mais avec peut-être l'irruption des médias en continu et aussi la caisse de résonance des réseaux sociaux, on voit que la mesure des phénomènes de violence, leur ampleur, leur impact et aussi les réponses que l'État et les pouvoirs publics y apportent fait désormais l'objet de débats permanents. Et je le disais tout à l'heure, on a aujourd'hui l'impression qu'il n'y a plus de langage commun et que il y a des visions au contraire très idéologiques, parfois radicales, qui s'affrontent.
Oui, tout à fait. C'est là où une réflexion de long terme et statistique aussi sur ce phénomène de la violence permet de prendre un petit peu de recul. Hein. Le papier de Laurent Mucchielli dans notre numéro, Laurent Mucchielli, qui est un des grands spécialistes de ces questions de violence et de leur médiatisation, montre bien qu'en réalité, si on regarde d'un point de vue statistique, il n'y a pas une hausse des faits de violence, ou alors dans des situations très particulières, mais par contre, il y a une hausse spectaculaire de la médiatisation de ces faits de violence, à tel point que, on le voit ces dernières semaines, petit à petit, ce thème s'est imposé comme un thème structurel du débat public et de la prochaine présidentielle, à tel point qu'il a fini par supplanter le Covid, qui avait pourtant été vraiment le terme qui avait dominé les médias depuis maintenant un an et demi. En quelques semaines, le Covid a été mis au second plan, il n'a pas disparu, mais par cette question de la violence qui, à partir de faits divers, s'est installée comme le thème central de la prochaine présidentielle, comme il avait déjà été en 2002. On se souvient comment ce thème était devenu le thème structurant de la présidentielle jusqu'à influer sur les résultats du premier tour de l'élection.
Alors justement, entre des points de vue aussi radicalement opposés que celui, par exemple, de Laurent Mucchielli, qui parle notamment du sentiment d'insécurité et de son exacerbation médiatique, et le ministre de l'Intérieur actuel, Gérald Darmanin, qui a parlé d'ensauvagement, et donc qui semble, lui, accréditer l'idée qu'il y aurait une montée généralisée de la violence. Comment on arrive à se faire une idée un petit peu de la situation réelle?
C'est là où l'intérêt de notre numéro, c'était de prendre de la distance à l'égard du simple discours politique. Discours politique, il y a des buts stratégiques, dans le cadre d'une élection présidentielle. Gérald Darmanin, il incarne l'aile droite de la Macronie, et donc il a pour but d'essayer de pousser vers cet homme-là dans le but d'une campagne présidentielle. Le chercheur, lui, il essaie de prendre du recul par rapport à ça, d'aller vers une étude plus historique, plus sociologique, pour essayer de voir si ce phénomène et cet ensauvagement, s'il y a, il est réel. On a beaucoup parlé aussi on a beaucoup utilisé le terme ces derniers mois de France orange mécanique. Donc voilà, nous, notre but, c'est au-delà des paroles toutes faites, d'essayer de voir s'il y a une réalité sociale, sociologique derrière ça ou pas.
Alors,
et en l'occurrence, c'est le travail qu'on essaye de faire. Il y a des points de vue politiques dans la revue, c'est totalement assumé, mais ces points de vue politiques sont beaucoup plus construits que ceux qu'on a tendance à entendre dans les médias de masse.
Alors, quand on regarde un petit peu les discours politiques, on a l'impression que c'est plus facile de dénoncer, on va dire, la violence dans la société montrer qu'on la combat, que, par exemple, de dénoncer certaines dérives au sein de l'État, et on pense notamment aux violentes répressions des manifestations des Gilets jaunes, où il y a eu quand même beaucoup de gens blessés, parfois très gravement, et sans qu'on ait l'impression que ça dérange finalement le pouvoir en place.
Oui, et tout à fait, cette question-là n'a pas été du tout tabou pour nous. Et donc on a plusieurs contributions dans le numéro qui justement reviennent dessus, et qui montrent que cette violence, elle existe aussi. Alors c'est je dirais presque la violence d'origine, c'est la fondation de l'État. La fondation de l'État, c'est le monopole de la violence légitime, selon la célèbre formule de Max Weber. Et donc elle est aussi interrogée, cette violence-là, avec est-ce qu'il y a eu, avec les Gilets jaunes, un retour à des pratiques policières qui étaient plus violentes ou pas? C'est ce que traite notamment Daniel Brunel dans sa contribution, alors elle plus sur l'angle, la question des personnes disracisées. C'est ce que d'autres contributions essaient aussi de traiter. On parlait tout à l'heure de la contribution de Laurent Mucchielli. On a également celle de Guillaume Farde qui s'intéresse justement à la manière dont aux différentes stratégies contemporaines de répression de la violence, en montrant qu'effectivement ces stratégies évoluent. On a beaucoup parlé notamment de la question de la NAS, cette stratégie de la NAS utilisée par la police depuis quelques années, et qui a pu contribuer plus d'accidents, plus d'actions violentes de la part de la police. Donc nous, notre idée, c'était vraiment, au-delà encore une fois des discours politiques visant à dire d'un côté la police est violente à l'égard de la société, et de l'autre côté en disant la police, on n'a pas les moyens de réprimer, d'essayer de montrer que les choses sont plus complexes, prendre du recul par rapport à ces discours-là, et en allant avec des témoignages, c'est ce que fait Guillaume Farde, il s'appuie sur des statistiques, sur des témoignages, au plus près de la police, pour comprendre quel est finalement son quotidien, ou également du côté de ceux qui ont été victimes, ou en tout cas ont été touchés par ces violences policières, c'est ce que fait notamment Emmanuel Brunet.
Alors, on a l'impression, quand on lit les différentes contributions, qu'il y a quand même une forme aussi de corporatisme, parce que chacun aborde la question de la violence sous l'angle d'un discours relativement comment dire, oui, corporatiste au sens où, on a Bernard Cazeneuve qui évidemment va défendre l'ordre républicain. On a Laurent Mukeli qui défend ses thèses sur la mesure, l'instrumentalisation de la violence dans le débat politico-médiatique. Et puis on a évidemment, on a eu le débat avec Raphaël Rémy-Leleux qui, elle, en tant que féministe, se focalise sur la question des violences faites aux femmes. Et Bernard Thibault, lui, bien, il parle du salarié soumis à de multiples guerres et à la compétition permanente. Donc quand on regarde un petit peu les parcours et les points de vue, finalement, on est rarement surpris.
Oui, alors on est rarement surpris, il y a quand même des contributions qui sont originales dans le sens où elles sont moins entendues dans les médias plus traditionnels, plus mainstream. Je pense encore une fois que ce discours réfléchissant à la violence qui est faite aux personnes racisées, c'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup. Alors on l'entend de manière un peu fantasmée dans la dénonciation du wokisme, mais nous on a plus d'habitude dans le monde de la recherche, mais par contre il est très peu audible ce discours-là, dans les médias plus généralistes. Donc ça, je pense que c'est quand même un peu plus original que ce qu'on peut trouver par ailleurs.
Et puis là, il est même en ce moment cloué au pilori par l'accusation de cancel culture ou de wokisme.
Exactement. Donc ce discours-là, c'est intéressant quand même de l'avoir, celui de Laurent Mukeli aussi, c'est intéressant de l'avoir, parce qu'il permet justement de prendre du recul à l'égard d'un discours qui paraît devenu finalement un common sense, un sens commun, alors que c'est loin d'être le cas. Donc ces discours-là, je pense qu'ils sont quand même originaux et permettent de se distinguer. Après, que les politiques ou que les représentants du monde syndical ou d'autres univers finalement déroulent un discours que l'on pouvait attendre, c'est tout à fait possible, et au final c'est assez logique. Il n'empêche que ce qu'ils font dans cette revue est quand même beaucoup plus élaboré, beaucoup plus réfléchi, avec plus de recul historique, sociologique, qu'ils ne le feraient dans d'autres formats, à la télévision, où on n'a évidemment pas le temps de développer sa pensée et où du coup on va aller vers des petites phrases toutes faites.
Et donc c'est aussi la diversité de ces points de vue qui offre un panel de réflexion parfois aussi de solutions, parce que il y a quand même derrière chacune et chacun des contributrices ou contributeurs l'idée que la violence, elle doit être combattue sous toutes ses formes.
Tout à fait. Le but à la fin, c'est pas d'aller vers la guerre de tous contre tous, mais d'essayer de l'éviter en pensant ce phénomène-là dès à présent, avant justement qu'il ne prenne trop d'ampleur. Et il y a d'ailleurs plusieurs contributions, c'est le cas de celui de Raphaël Rémy-Leleux, qui cherche à donner justement des solutions pour éviter la violence faite aux femmes. Mais c'est le cas de plusieurs autres contributions. Donc voilà, tout ça permet d'y répondre et d'éviter que ce phénomène continue à s'amplifier.
Alors, un dernier mot, peut-être une dernière question sur l'édito je sais pas, d'ailleurs c'est pas vraiment un édito, mais c'est l'article d'Arnaud Benedetti, le rédacteur en chef de la revue Violence, un mot et des réalités. Alors j'aimerais vous faire réagir à la conclusion de son article. Sommes-nous plus violents aujourd'hui? Pas sûr. Le sommes-nous moins? Pas forcément. Sommes-nous plus sensibles? Sans aucun doute, travaillé par un sentiment d'altérité qui n'a cessé de grandir et de nous grandir.
Oui, tout à fait.
Est-ce que tout est dit, ou est-ce que c'est une bonne synthèse de l'ensemble des contributions?
Cet édito qu'on a rédigé ensemble, l'idée c'était vraiment de faire une présentation des différentes contributions et puis d'essayer finalement d'arriver au plus petit dénominateur commun de ces contributions très diverses, comme vous l'avez dit. Et donc c'est effectivement la conclusion à laquelle on arrive, c'est que cette violence, elle est aussi beaucoup dans la réalité, mais aussi beaucoup dans nos esprits, que sa vision de long terme nous permet de voir qu'en réalité, c'est un phénomène social qui est quasiment inhérent à la vie en société, et que le but, c'est d'essayer de la maîtriser en mettant plus de dialogue, en mettant plus de communication, et c'est ce que cherche à faire ce numéro de revue.
Merci beaucoup Pierre-Emmanuel Guigaud, je rappelle que vous êtes historien. Vous êtes également coordinateur de ce numéro de la revue politique et parlementaire intitulé « La guerre de tous contre tous » avec de nombreuses contributions pour analyser la violence sous toutes ses formes. Essayer d'avoir un petit peu un panorama complet des positions intellectuelles, politiques, militantes sur cette question. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel, d'avoir accepté notre invitation. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, pour un nouveau numéro de « Et si on en parlait ?» sur Radio Orient.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.